Vous écoutez la Deutsche Welle.
Ma plus grande motivation, c'est l'amour de mon pays. Et de deux, j'aimerais bien laisser un pays stable. Je suis une mère de famille. Je voudrais laisser un pays dont mes enfants seront fiers hein, dans le futur. Et essayer de permettre à la RDC de retrouver sa place de leader hein, en termes de matière grise, en termes de ressources naturelles. Donc, je me suis dit que j'étais prête, je suis formée, j'ai l'expérience qu'il faut, pourquoi pas.
Oui, vous êtes certes économiste. Oui, vous êtes certes économiste de formation. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir espérer recueillir l'assentiment de vos compatriotes?
L'assentiment, je ne crois pas qu'il puisse y avoir un paramètre qui puisse être suffisant. Hein. C'est beaucoup de paramètres en même temps. Donc, une formation est nécessaire hein, parce que la RDC, depuis son indépendance, malheureusement, nous avons eu un problème qui était commun à tous les présidents, c'est-à-dire le manque d'expérience, manque d'éducation donc à un certain niveau. Et c'est pour cela, je ne dirais pas qu'être économiste est suffisant, mais c'est un mélange de tout, d'expérience, d'expérience, de patriotisme, de c'est un mélange. Je ne dirais pas que ça soit suffisant, mais vraiment, c'est un mélange. Beaucoup de paramètres en même temps font que je puisse me sentir aujourd'hui prête hein, pour pouvoir me présenter à l'élection présidentielle.
Et quelles sont vos priorités?
Ma priorité est sécuritaire parce qu'aucun projet de société, aucun programme ne peut tenir dans un pays qui est en guerre. Donc la plus grande priorité, c'est de voir qu'est-ce qui n'a pas marché, d'essayer d'analyser qu'est-ce qui n'a pas marché à l'Est, qu'est-ce que nous pourrions faire pour stabiliser ce pays. Parce qu'en stabilisant le pays, nous pouvons très très vite créer une classe moyenne, nous pouvons très vite faire en sorte que la RDC puisse être encore attirer des investisseurs. Donc ma plus grande priorité, c'est de travailler, de voir avec tous les investisseurs qui sont déjà là, surtout les compagnies minières qui travaillent à l'Est, voir qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble avec des partenaires extérieurs aussi, qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble pour que la RDC puisse être un pays stable.
Vous aviez publié récemment chez Edilivre hein, un ouvrage qui a pour titre « RDC, possible intégration régionale ». Est-ce qu'on peut avoir un résumé? Que dit cet ouvrage?
Avant de présenter mon projet de société, j'aimerais d'abord montrer donc la RDC, l'état actuel de la RDC. Et la meilleure façon de faire cet inventaire, c'était par cette expérience personnelle. Comme j'ai été à la commission électorale en 2006, j'ai travaillé pour des ONG au niveau national et international. J'ai travaillé aussi dans le secteur privé. Qu'est-ce qui fait que la RDC, quel est le programme le mieux adapté pour faire qu'en très peu de temps, à court terme, que la RDC puisse décoller? Donc c'est un livre vraiment inventaire qui retrace aussi le combat d'une femme, hein, une femme dans ce monde si misogyne, qui a pu se trouver une place, qui a dû se battre malgré les difficultés pour pouvoir se retrouver où je me trouve aujourd'hui. Donc un livre inventaire de ma vie professionnelle et de la RDC.
Le comité laïque de coordination qui est proche de l'Église catholique appelle à la mobilisation à partir du 9 août prochain, au lendemain donc de l'expiration du délai prévu hein, pour déposer les dossiers de candidature. Est-ce que vous pensez comme les laïcs catholiques que Joseph Kabila a des intentions cachées? Il ne veut pas céder le pouvoir?
Nous avons proposé qu'il puisse y avoir pression au cas où M. Kabila voudrait se représenter, au cas où on repoussait la date des élections. Au moins, ça serait une marche qui donne un sens, une marche qui a vraiment l'intérêt général. Hein. Donc, on ne pourrait rien dire, vous savez, il faut laisser quand même à la société civile de jouer son rôle. Hein. On ne peut pas se mettre au travers. Donc, mais il faut en même temps que tout cela puisse être utilisé très intelligemment parce que c'est un couteau à double tranchant. Quand ce n'est pas bien utilisé, ça peut donner encore à Monsieur Kabila, donc des raisons de rester pour des questions sécuritaires. Il peut dire qu'il voudrait stabiliser d'abord le pays, faire en sorte que les élections se passent dans un environnement stabilisé. Donc c'est un couteau à double tranchant à eux de savoir comment l'utiliser.
Et les machines à voter, qu'en pensez-vous?
Les machines à voter, je pense que c'est le mode de transmission de ces résultats qui poserait problème. Parce que si ce sont des machines, comme l'avait annoncé la commission électorale, qui servent juste d'imprimante, pourquoi pas? C'est pour faciliter, pour aussi gagner en temps. Mais tant qu'il y a une transmission électronique, c'est là qu'il y a des problèmes, parce que nous ne pouvons jamais contrôler si ce qui est parti de la source et ce qui est C'est ce qui est arrivé au centre de compilation, dans les bureaux de liaison et ensuite à Kinshasa. Donc le mode de transmission est vraiment le plus insécurisé qui soit et c'est là que ça va être un problème. Mais en même temps, nous n'allons pas nous mettre à l'écart pour dire qu'il faut qu'ils écartent la machine à voter. C'est à nous de trouver des moyens de pouvoir sécuriser nos votes.
Mais comment est-ce que vous pouvez sécuriser comment est-ce que vous pouvez sécuriser un pays
qui fait... C'est à chaque parti politique d'avoir des témoins dans les bureaux de vote et de trouver les moyens, en même temps que la compilation est en train de se faire, que les partis politiques puissent faire à leur niveau leur compilation. C'est la seule façon de pouvoir contrôler cela.
Mais comment est-ce que vous pouvez y arriver, puisque la RDC fait quand même plus de 2,5 millions de kilomètres carrés? Ça sera possible?
Oui, ce n'est pas possible, mais en même temps, c'est une question de stratégie. Donc, il faut trouver un moyen de pouvoir contrôler ça. Si on les laisse faire, donc on devra subir. Il y aura juste des nominations, ce ne sera pas des élections, ce sera des nominations. Hein. Donc, ils vont nommer des gens qu'ils veulent.
Honnêtement, est-ce que même si Joseph Kabila n'est pas candidat, est-ce que vous croyez que la majorité présidentielle se fera battre à l'issue de ces élections de décembre?
Vous parlez de majorité comme si c'était vraiment un mélange très soudé. Hein. Donc, c'est un mélange aussi, tout peut arriver. Attendons un peu avec le dauphin, celui que Kabila choisira comme dauphin. Et s'ils restent soudés, s'ils restent toujours unis, c'est là peut-être qu'on pourra se dire qu'ils sont vraiment décidés à gagner. Mais connaissant les égos de nos frères, on attend d'abord que M. Kabila puisse désigner son dauphin et puis on dira. On dira ce qu'il faudra faire.
Et pourquoi ne pas anticiper en présentant un candidat unique à cette élection présidentielle, de l'opposition, je vais dire.
L'opposition en elle-même, c'est comme la majorité. Il faut déjà qu'il puisse y avoir les mêmes bases. Donc c'est un problème de base. Qu'est-ce qui unit? Quand on parle d'opposition, c'est par rapport à M. Kabila. Mais quand M. Kabila n'est pas là, cette unité est autour de quoi? De valeurs et autour de quoi?
Donc vous pensez qu'il n'y a pas de convergence de vue au sein de l'opposition?
Je ne crois pas trop, parce que cette opposition, au fait, il y a une grande partie, 50% de cette opposition a travaillé avec Kabila pendant plus de 10 ans. Hein. Donc il ne faut pas qu'on l'oublie, parce que le système Kabila, on parle de Kabila, mais c'est tout un système. Ce système a été mis en place par qui et comment? Si ce sont les mêmes esprits qui ont mis le système Kabila en place et aujourd'hui se retrouver dans l'opposition, ce sont les mêmes personnes. Donc quand vous parlez de l'opposition, il ne faut pas parler de M. Kabila. C'est pour cela, excusez-moi, je ne suis pas dans cette opposition traditionnelle. Parce que je ne peux pas faire une opposition contre quelqu'un qui est en train de partir. Là, il est en train de partir, donc il faut trouver un moyen que ceux qui pensent qu'ils ont l'intention de relever l'économie de la RTC, ceux qui pensent qu'ils partagent les mêmes valeurs, ceux qui pensent qu'ils peuvent se réunir autour d'une vision, pas autour d'une opposition, peut-être là, oui, il y aura moyen de faire des alliances sur base de cela.
Et qu'est-ce qui vous différencie des autres candidats?
Les autres candidats, donc, on sera défini sur la liste définitive. Hein, mais d'ores et déjà, je pense que si on doit y aller par élimination, on peut dire que 90% de ceux qui sont candidats, d'une façon ou d'une autre, ont travaillé avec M. Kabila. Alors, dans les 30% qui restent, donc, il faut voir maintenant ceux qui ont quand même un minimum d'expérience de managériale à un niveau assez élevé, parce que la RDC de demain a besoin des gens qui ont une vision claire, qui savent exactement en 5 ans, parce que c'est pendant 5 ans qu'il faut relever beaucoup de défis en même temps. Donc, je pense que l'expérience aussi est un très grand atout. Il y a peut-être 2 ou 3 candidats aussi qui ont beaucoup d'expérience. Et aussi, je ne vais pas négliger le fait d'être une femme. La RDC a beaucoup plus souffert de ces viols, la femme qui est toujours un peu laissée de côté alors qu'elle participe à l'économie, bien qu'au niveau informel. Je pense aussi que la femme a cette approche de rassembler plus facilement et de trouver plus diplomatiquement des solutions que d'aller toujours de front, de créer des frustrations. Donc je pense que c'est cet aspect aussi de femme, une femme intellectuelle, une femme aussi qui a pu travailler au niveau national et ainsi qu'au niveau international. Je pense que tout ça, je considère ça comme atout.
Oui, justement, j'allais vous poser la question. Pensez-vous que vos compatriotes sont prêts à élire une femme à la tête de leur État?
Je pense que la question peut-être est mal posée. Est-ce que nos compatriotes sont prêts au changement? C'est ça, ce serait ça la question. Parce que pour une femme, vous savez, c'est à moi de les convaincre. C'est à moi de prouver que je peux quelque chose. Il n'y a pas de cadeau. Nous, les femmes, nous sommes habituées à travailler 2 fois plus que les hommes pour nous faire accepter. Donc, nous n'y allons pas en toute naïveté, pensant qu'on va nous offrir cela sur un plateau parce que je suis une femme. Non, il faut faire des stratégies, communiquer suffisamment, parler au peuple congolais et mettre en avant les atouts. Et je pense que le travail est ardu, mais nous allons y arriver.